VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. Au micro, Mouamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 31 juillet 2023. Il est 17h30, temps universel. Voici le sommaire. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été inculpé et placé sous mandat de dépôt. Les autorités ont dissous son parti et suspendu l'internet mobile. Au Niger, les poutistes accusent la France de vouloir intervenir militairement pour les renverser. Le parti du président déchu Mohamed Bazoum dénonce des arrestations abusives dans ses rangs. La Russie intensifie ses frappes sur des installations militaires ukrainiennes. Plusieurs morts dans la ville natale du président Volodymyr Zelensky. Ici aux États-Unis, l'édition 2023 des Yali, l'initiative des jeunes leaders africains, a débuté aujourd'hui ici à Washington DC. Nous ferons le point avec notre reporter sur place. À suivre aussi la minute économique et les sports, mais pour commencer, le journal. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été inculpé ce lundi par un juge. Ce dernier a ordonné son placement en détention, notamment pour appel à l'insurrection et complot contre l'État. À Dakar, la correspondance de Sidina Abagay.
Ousmane Sonko va passer sa première nuit en prison. L'opposant et leader du parti PASTEF les Patriotes est poursuivi pour appel à l'insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'autorité de l'État, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, vol et diffusion de fausses nouvelles. Des charges très lourdes contre celui qui est considéré comme l'un des favoris pour la présidentielle de février 2024. Face à cette accusation corsée, ses avocats ont évoqué une procédure biaisée qui a été entamée sur une accusation de vol qui est ridicule d'après eux. Les conseils d'Ousmane Sonko estiment également que la procédure a été entamée et les actes posés un jour non ouvrable, ce qui était selon eux la thèse du complot d'État. Face à cette situation, plusieurs militants et soutiens de l'opposant ont envahi les rues de Dakar et brûlé des voitures et des bus. Plusieurs axes sont également bloqués. De son côté, Ousmane Sonko en est à son deuxième jour de grève de la faim pour contester sa détention, qu'il juge arbitraire. Sidina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
On reste au Sénégal, nous l'avons appris il y a quelques instants, le gouvernement annonce la dissolution du parti de Ousmane Sonko. Pour en parler, retrouvons sur place notre correspondant Sidina Abagay. Sidina, bonsoir.
Bonsoir.
Quelle est l'ambiance à Dakar où vous vous trouvez?
Comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de manifestations, mais des manifestations sporadiques et moins intenses que ce qu'on a connu au début du mois de juin quand il est condamné dans l'affaire du viol. Cependant, la dissolution du parti PASTEF est une surprise pour beaucoup parce que certains ne s'y attendaient pas, mais cela a été acté par décret présidentiel ce 31 juillet 2023. Et le gouvernement évoque des mesures prises parce que les dirigeants de PASTEF et les instances ont fréquemment appelé les partisans à des mouvements insurrectionnels, ce qui a entraîné, d'après le gouvernement, de lourdes conséquences, incluant de nombreuses pertes en vies humaines, de nombreux blessés, ainsi que des actes de pillage de biens publics. C'est ainsi que l'État du Sénégal a justifié la dissolution du parti de Ousmane Sonko.
Merci beaucoup, Sidina Abagay, pour les derniers développements au Sénégal. Au Niger maintenant, les militaires qui ont renversé le président élu Mohamed Bazoum ont accusé ce lundi la France de vouloir intervenir militairement au lendemain d'un sommet de la CEDEAO où les chefs d'État ont menacé d'utiliser la force si M. Bazoum n'était pas rétabli dans ses fonctions d'ici dimanche. Les derniers développements avec notre correspondant Abdul Razak Ibrissa.
Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie n'a pas encore réagi aux conclusions de la double réunion extraordinaire IOMOA-CEDEAO tenue à Abuja hier et qui a infligé de lourdes sanctions au Niger. Les nouvelles autorités ont continué cependant à communiquer aux populations à la suite par exemple des événements d'hier où des manifestants ont attaqué l'ambassade de France à Niamey. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a appelé au calme et à la retenue. Dans un autre communiqué, le général Tchani et ses hommes informent l'opinion sur les agissements de certains dignitaires du régime déchu de concert avec la France pour libérer l'ancien président Mohamed Bazoum.
Le sieur Hassoumi Massaoudou, agissant en tant que premier ministre, signe le document que voici la teneur. J'ai sous-signé Hassoumi Massaoudou, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, premier ministre par intérim, autorise le partenaire français à effectuer des frappes au sein du palais présidentiel afin de libérer le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, pris en otage.
Tôt ce matin, plusieurs cadres du parti PNDS ont été arrêtés, parmi eux le président du parti Fouma Koïgado ou encore le fils de l'ancien président Issoufou Mahamadou, jusqu'ici ministre du pétrole. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
À propos de la situation au Niger, le gouvernement tchadien a rendu public les premières informations sur la médiation menée par le président de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno. Selon une note d'information du porte-parole du gouvernement tchadien, Aziz Mahamat Saleh, le Tchad se félicite d'être le premier pays extérieur à avoir eu accès à tous les intervenants, y compris le président Mohamed Bazoum, qui se porte bien. Un langage de vérité a été tenu par le président tchadien afin de maintenir la paix et l'intérêt supérieur du Niger. Il a affirmé un objectif à tous, éviter à tout prix un conflit ouvert et un isolement du pays. Il a rappelé que la menace terroriste est présente au Sahel et va profiter de la crise si elle perdure. Un contact est établi entre les différents acteurs et le président Issoufou est chargé par le président Mahamat Idriss Déby de maintenir les échanges et la médiation afin de rapprocher les points de vue et éviter la guerre et les sanctions. Le président tchadien continue les échanges et est disposé à repartir au Niger si besoin était, indique la note du porte de parole du gouvernement tchadien. Au Nigeria, un couvre-feu total a été instauré dimanche dans l'état de l'Adamawa, où des centaines d'habitants se sont livrés à des pillages massifs de magasins et d'entrepôts publics où de la nourriture était stockée. Le gouvernement de l'état de l'Adamawa, Amadou Oumarou Fintiri, a décrété un couvre-feu de 24 heures avec effet immédiat, a déclaré dimanche son porte-parole. Avec le couvre-feu imposé, il n'y aura aucun mouvement dans tout l'état. La police locale a également déclaré que des personnels de sécurité avaient été déployés pour faire respecter le couvre-feu et empêcher de futurs pillages. Les Centrafricains se sont prononcés dimanche par référendum sur un projet de nouvelle constitution qui devrait permettre au président Faustin Archange Touadéra de briguer un troisième mandat. Les principaux partis d'opposition et organisations de la société civile ainsi que plusieurs groupes armés rebelles avaient appelé à boycotter le scrutin. Les adversaires de la réforme dénoncent l'absence de fichiers électoraux à jour et le manque d'indépendance des institutions chargées de garantir la régularité des résultats. Les résultats provisoires doivent être publiés sous 8 jours et la Cour constitutionnelle proclamera les résultats définitifs le 27 août.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et aux États-Unis, l'édition 2023 des YALI, Young African Leaders Initiative, l'initiative des jeunes leaders africains, a débuté aujourd'hui à Washington, D.C. Cette conférence, qui va durer 3 jours, couronne 6 semaines d'apprentissage des jeunes leaders africains dans plusieurs domaines. Le compte-rendu de Yakuba Ouédraogo.
Ethan Rosenweg, sous-secrétaire adjoint du Bureau de l'Éducation et des Affaires culturelles du département d'État, a présidé l'ouverture du Mandela Washington Fellowship Summit 2023. Il a invité les jeunes Africains à œuvrer à la transformation de leur société et de leur continent. Ces leaders qui ont ensuite eu un échange animé et fructueux, disent-ils, avec le fondateur de Kickstarter, une société basée à New York et qui aide à donner vie à des projets créatifs par des financements. Les plus de 700 jeunes regroupés par ce programme YALI et répartis dans 28 universités américaines disent être édifiés par leur formation. Ali Salé est un économiste venu du Tchad.
Moi, je travaille à promouvoir la transparence, à impliquer les citoyens dans la gestion de la chose publique. Nous avons beaucoup appris, surtout dans le cadre du volontarisme. Tout citoyen est appelé à être volontaire pour voir le changement dans son pays.
Hussein Ousmane est de Djibouti.
La chose qui m'a plus marqué durant ces 6 semaines, c'est que l'engagement civique, mon track, c'était le civic engagement. J'ai beaucoup appris auprès des Américains parce qu'ils ont implémenté des idées innovatives. Je peux être fier de moi-même parce que j'ai eu un impact sur les autres participants durant ces 6 semaines.
Le programme YALI couvre 3 principaux domaines. Le leadership civique qui touche des acteurs de la société civile, la gestion des affaires ou le leadership en business et la gestion des affaires publiques. Ce sommet du Washington Fellowship se poursuit mardi avec, entre autres, une conversation avec Samantha Power, administratrice de l'Agence américaine pour le développement international.
Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, a affirmé ce lundi que l'intensité des frappes sur les infrastructures militaires ukrainiennes avait augmenté en flèche en réponse aux attaques visant le territoire russe. Une attaque de missiles russes a touché la ville de Kryvyi Rih dans le sud de l'Ukraine, tuant au moins 4 personnes. Le point avec Jean-Roger Billon.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, natif de Kryvyi Rih, a indiqué que les frappes ont touché un bâtiment universitaire et un immeuble d'habitation. L'attaque semble avoir été menée avec des missiles balistiques, selon le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne. Plus de 200 secouristes s'affairaient dans les décombres des bâtiments pour tenter de sauver les personnes prises au piège. La ville de Kherson, au sud de l'Ukraine, a par ailleurs été touchée au moins 2 fois dans des attaques séparées. D'après le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, ces offensives sont une réponse aux attaques aux drones survenues dimanche à Moscou, où 2 immeubles d'un quartier d'affaires ont été légèrement endommagés, et plus en arrière, aux récentes attaques de drones ayant visé la péninsule annexée de Crimée. Sergueï Shoigu a par ailleurs assuré que la contre-offensive ukrainienne, démarrée début juin, est infructueuse. Dimanche, le président Volodymyr Zelensky s'est pour sa part dit satisfait de ses frappes, affirmant que la guerre arrive sur le territoire russe et dans ses centres symboliques.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nani Talani.
La RDC a suspendu la... l'approbation de Congo Gold Raffinerie qui était sur le point de lancer la première raffinerie de lingots du pays dans le sud Kivu, indique Reuters. Selon un décret de la ministre des Mines, Antoinette Somba Kalambayi, la société a perdu son agrément en tant qu'entité de traitement pour n'avoir pas respecté ses obligations sociales. La société soutient pour sa part que son installation concorde avec les plans du gouvernement de traitement local des métaux. Elle se plaint que la suspension de sa licence met des emplois en danger. L'entreprise dispose de 30 jours pour faire appel de la décision. Au Congo-Brazzaville, le Parlement a récemment approuvé la nouvelle loi organique relative à la Cour des comptes et de discipline budgétaire. Le texte comporte plusieurs innovations et renforce les prérogatives de cette institution qui peut désormais sanctionner les ordonnateurs, les contrôleurs financiers, les comptables publics et les comptables de fait et prononcer les condamnations à l'amende. La loi renforce aussi, entre autres, le contrôle de la légalité financière et de la conformité de toutes les opérations de recettes et des dépenses de l'État. Pour terminer, en Tunisie, la récolte céréalière a baissé cette année de 60% à 250 000 tonnes, a annoncé un responsable du ministère de l'Agriculture, Salwa Hididi.
On reste avec Nani Talani pour l'actualité sportive. Nani, commençons par la Coupe du Monde féminine 2023. Invaincue, la sélection féminine nigériane se qualifie pour les huitièmes de finale, marquant l'histoire de cette compétition.
Bonsoir Oufa, bonsoir à tous. Et oui, le Nigeria qui joue dans le même groupe que l'Irlande, le Canada et l'Australie, l'un des deux pays hôtes du tournoi, a réussi à passer les huitièmes de finale de cette coupe après son match nul contre l'Irlande 0-0 ce lundi à Brisbane en Australie. Ce nul permet au Nigeria de finir deuxième du groupe avec 5 points derrière l'Australie qui obtient 6 points après sa victoire contre le Canada. C'est la deuxième fois de leur histoire que les Super Falcons du Nigeria se qualifient pour ces huitièmes de finale. Donc les Super Falcons affronteront l'Angleterre, la Chine ou le Danemark au prochain tour le 7 août. Quant au Canada et l'Irlande qui finissent les matchs de poule respectivement avec 4 points et 1 sont éliminés de la compétition.
Parlons maintenant des mondiaux d'athlétisme. Le Kenyan Emmanuel Korir reste confiant malgré une récente blessure Nanit.
Oui, le Kenyan Emmanuel Korir s'est relevé de quelques blessures, mais certaines l'ont également fortement amoindri ou lui ont coûté des titres. Parmi elles, la Diamond League de Rabat en 2022, où il s'est classé 7e. Dans un passé plus lointain, ses rêves de remporter le titre au championnat du monde d'athlétisme de Londres en 2017 ont également été brisés après qu'il se soit blessé au bas du dos lors des demi-finales où il s'est classé cinquième. Et pour finir, il se rend à Budapest après une série de sorties peu convaincantes cette saison après avoir terminé huitième à Stockholm.
Merci Nanit.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouamadou Koumoufa toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO, tenu hier à Abuja, s'est achevé avec des résolutions fermes contre les nouvelles autorités militaires du Niger. L'organisation régionale donne une semaine à la junte pour remettre le pouvoir au président Mohamed Bazoum et n'exclut pas l'usage de la force. Pour une analyse, Abdourahmane Dia a joint à Paris Sédhi Kaba, chercheur à l'Université du Québec à Montréal.
La CEDEAO a cherché à redorer sa crédibilité. On sait qu'elle a été impuissante dans le cas du Mali, dans le cas de la Guinée, dans le cas du Burkina Faso, et elle ne voudrait pas être à nouveau impuissante dans le cas du Niger. Donc elle joue son va-tout pour sauver sa propre crédibilité et donner l'impression que maintenant qu'elle a repris tout en main, et l'enjeu du Niger est un enjeu donc absolument important à la fois pour elle, au-delà même de l'enjeu diplomatique et sa propre crédibilité. Et deuxième élément d'analyse, c'est que le président Tinubu, qui a pris la présidence le 10 juillet, voudrait marquer son passage à la présidence de cette organisation avec un acquis important, et de ce point de vue, et pour lui, laisser passer le coup d'État au Niger est une chose inacceptable. Il voudrait inaugurer son mandat à la présidence de la CEDEAO par une action forte.
Est-ce qu'une intervention militaire est plausible ou même souhaitable, surtout si la junte bénéficie d'un soutien populaire?
Oui, une intervention militaire est contre-productive. À mon avis, si la CEDEAO met la pression en faisant miroiter la possibilité d'une intervention pour faire plier la junte, ça peut se comprendre. Mais passer à la phase pratique d'une intervention militaire, ça me paraît très complexe et ça risque d'être contre-productif. Il y a aujourd'hui dans l'opinion nigérienne des gens qui n'adhèrent pas au coup d'État, mais qui vont rejoindre la junte dès lors qu'il y aura une intervention parce qu'ils considèrent que l'enjeu de la souveraineté nationale est plus important que toute autre considération. Et c'est vers cela qu'il faut éviter d'aller. À mon avis, si la CEDEAO précipite une grande partie de l'opinion dans les bras de la junte, ce serait contre-productif. Il vaut mieux qu'elle s'en tienne aux sanctions les plus dures qu'elle n'ait jamais prises, même plus dures que celles du Mali, pour voir les effets que ça pourrait donner et comment ça pourrait faire infléchir la junte, plutôt que de faire ce pari improbable d'une intervention militaire qui est techniquement compliquée. Comme l'a dit l'état-major des armées du Niger, s'il y a une intervention, on ne peut même pas garantir l'intégrité physique et la vie du président, du président Bazoum, qui est pour l'instant retenu au palais par la junte qui contrôle le palais.
Que signifie tout cela pour la région, ce dernier coup de force des militaires au Niger?
Pour la région, je pense que c'est une vraie catastrophe parce que le défi sécuritaire n'a pas reculé. Il continue même à progresser avec l'extension de la menace, l'aggravation dans les pays du Sahel et puis l'extension aux pays du Golfe de Guinée. Avec l'instabilité politique qui devient chronique, avec le coup d'État du Niger, on en arrive au cinquième coup d'État, deux au Mali, deux au Burkina, un au Niger pour le Sahel. Et si on ajoute la Guinée, on arrive au sixième coup d'État. Et ça, à mon avis, c'est très grave que l'insécurité vient s'ajouter à l'instabilité politique. Et il faut craindre cette déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest parce que c'est un élément important de de l'ensemble du continent africain.
C'était Sédhik Abba, chercheur et analyste politique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En République centrafricaine, un jour seulement après la tenue du référendum sur une nouvelle constitution, le camp du oui crie à la victoire. L'opposition de son côté salue le respect de son mot d'ordre de boycott et dénonce, selon elle, des résultats connus d'avance. À Bangui pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
Les réactions n'ont pas tardé à affluer au lendemain du scrutin référendaire. La première est celle de l'Autorité nationale des élections. L'institution salue une opération réussie en dépit de nombreuses inquiétudes liées à la situation sécuritaire. Mathias Barthélémy Moruba, président de l'ANE.
C'était un grand défi qui a été levé sur l'ensemble du territoire. Dans les 5448 bureaux de vote que nous avons pu organiser les élections. Beaucoup de gens nous ont découragés, beaucoup nous ont lancé des défis, beaucoup n'ont pas cru, beaucoup ont pensé que la population ne pouvait même pas se rendre dans les bureaux de vote, beaucoup ont pensé que nous ne pouvons pas arriver à terme.
Alors que les résultats provisoires sont attendus d'ici à lundi prochain, les partisans du oui crient déjà à la victoire. Évariste Ngamana, directeur national de la campagne référendaire du oui, a avancé ce lundi au cours d'une conférence de presse des chiffres non officiels.
Hier, tout le monde a pu constater, malgré les appels au boycott d'une partie de l'opposition, le peuple centrafricain s'est rendu massivement aux urnes pour voter la loi fondamentale de son pays. Selon les premières tendances, je dis bien, selon les premières tendances, ce ne sont pas encore les résultats, la nouvelle constitution est votée à 90%, avec un taux de participation de 70%.
Dans le camp de l'opposition, c'est la satisfaction, même si l'on pense que les résultats sont connus à l'avance. Pour le bloc républicain pour la défense de la constitution du 30 mars 2016 BRDC, les centrafricains ont fait preuve de patriotisme en boycottant le scrutin. Martin Ziguélé, porte-parole du BRDC.
Le peuple centrafricain, dans sa diversité, partout dans le pays et à l'étranger, nous a agréablement surpris. Si ce scrutin avait été un vrai référendum, le non l'aurait emporté à 99,99%. Quasiment tous les centrafricains sont restés à la maison.
Pendant que les différents camps revendiquent le respect de leur mot d'ordre, la CEAC, qui a déployé ses observateurs dans certains bureaux de vote, a fait aujourd'hui le bilan de l'opération. Marie-Madeleine Kalalangoy, chef de mission.
Dans les circonscriptions électorales de Bangui, la mission a observé le scrutin dans 125 bureaux de vote. La majorité des bureaux de vote visités étaient situés dans des bâtiments publics et privés, pour la plupart dans des établissements scolaires. La mission a noté une participation significative des femmes et des jeunes électeurs le jour du scrutin. La mission a noté que le matériel électoral était disponible en quantité suffisante et conforme aux standards dans la plupart des bureaux de vote visités. Par endroits, la mission a également noté l'insuffisance ou le manque de bulletins de vote et d'enveloppes.
Les urnes ont commencé à être acheminées au centre de traitement des données de l'ANE. Si cette nouvelle constitution est adoptée, le mandat présidentiel passera de 5 à 7 ans, renouvelable plusieurs fois. Les binationaux ne seront plus autorisés à briguer la magistrature suprême de l'État. Freeman Sipila Bongui pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
La Journée internationale de la femme africaine est commémorée ce 31 juillet dans l'est de la République démocratique du Congo. La situation humanitaire est alarmante et des milliers de femmes vivent dans la misère. Des femmes leaders ont décidé de plaider leur cause. Reportage de Zanem Neti Zaidi.
Dans les camps des Ngangi au nord de Goma, Béatrice Semaseka, une déplacée venue des Rougari en territoire de Rutshuru, se bat pour nourrir ses enfants alors que son mari ne travaille pas.
Je vis dans cette cabane avec mes trois enfants et mon mari qui ne travaille pas. Si je ne fais pas la couture des habits, je me rends dans les parcs pour transporter la braise. Parfois, je veux aussi commander auprès des cultivateurs qui récoltent des pommes de terre et des choux. Tout ça pour nourrir ma famille.
Plusieurs cas de violences sexuelles ont été enregistrés lorsque ces femmes déplacées se rendent dans les parcs à la recherche de nourriture. Des organisations féminines locales se sont mobilisées pour plaider la cause de ces personnes vulnérables. Généreuse Kayene est coordonnatrice de Women Today, une organisation qui vise l'émergence d'un Congo où les femmes sont au cœur d'un monde sans violence ni pauvreté.
L'Est de la République en particulier traverse des périodes de crise humanitaire où on observe des violences à répétition qui ont laissé des vulnérabilités et des conditions accrues des populations. Women Today contribue dans la lutte contre les violences basées sur le genre à travers l'autonomisation des femmes et des filles vulnérables en leur apprenant des petits métiers. La femme du Nord Kivu a droit à la paix pour son épanouissement.
Ce 31 juillet est aussi l'occasion pour les femmes leaders de la province du Nord Kivu Kourou, à l'instar de Chantal Faïda, de renforcer leur plaidoirie auprès des autorités politiques pour plus de considération de la femme au même titre que l'homme dans les instances de prise des décisions.
Les femmes sont majoritaires dans tous les pays africains. Cependant, au niveau décisionnel, elles représentent à peine 20%. C'est dire qu'il y a encore beaucoup d'obstacles culturels, économiques, juridiques, politiques qui freinent l'épanouissement de la femme. Et cette occasion de la journée du 31 juillet nous donne l'opportunité de faire un appel aux décideurs de pouvoir redoubler d'efforts pour qu'il y ait plus d'effectivité des droits politiques et sociaux des femmes.
La célébration historique de la journée de la femme africaine remonte au 31 juillet 1962, lorsque des femmes du continent s'étaient réunies à Dar es Salaam pour créer la conférence des femmes africaines. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
Ici aux États-Unis, de nouvelles charges criminelles ont été annoncées à l'encontre de Donald Trump, mais l'ancien président a de nouveau minimisé les accusations dont il fait l'objet. Parallèlement, Hunter Biden, le fils du président Joe Biden, fait face à des ennuis judiciaires qui placent le président lui-même dans la ligne de mire des républicains. Véronica Balderas Iglesias de la VOA fait le point. Le récit est de Jean-Roger Billon.
Lors d'un meeting de campagne samedi en Pennsylvanie, l'ancien président Donald Trump, candidat républicain à l'élection présidentielle de 2024, a une fois de plus rejeté les accusations dont il fait l'objet.
Ce sont des inculpations ridicules. Ils veulent nuire au candidat en tête de course.
Jeudi dernier, les procureurs fédéraux ont ajouté 3 nouveaux chefs d'accusation au dossier. Ils sont liés à de présumées entraves à la justice dans le cadre de l'enquête sur la gestion de documents classifiés par M. Trump. L'ancien gouverneur du New Jersey et candidat républicain à la présidence, Chris Christie, qui a participé dimanche à l'émission State of the Union sur CNN, est revenu sur les nouvelles preuves qui font état de ce que M. Trump aurait ordonné à certains membres de son personnel de supprimer des vidéos de sécurité compromettantes.
This is the withholding of... On parle de la rétention d'informations confidentielles et classifiées par le gouvernement. C'est clavé pendant 18 mois à Donald Trump afin qu'il les retourne volontairement. Non seulement il ne les a pas rendues, mais il a menti sur le fait qu'il les avait.
Un autre candidat républicain à la Maison-Blanche, Vivek Ramaswamy, a qualifié la procédure judiciaire en cours de poursuite politisée et a réaffirmé que s'il remportait lui-même la course à la présidence, en 2024, il gracierait
M. Trump. Je pense absolument que la bonne réponse pour le pays est de mettre les griefs du passé derrière nous.
Une autre affaire juridique qui fait la une des médias américains concerne Hunter Biden. Jeudi dernier, le fils du président Joe Biden devait plaider coupable pour défaut de paiement d'impôts dans le cadre d'un accord, mais le deal a échoué. La formulation de l'accord est en cours de révision à la demande d'un juge. L'ancien procureur Chuck Rosenberg a commenté l'affaire lors de l'émission Meet the Press de la chaîne NBC.
C'est relativement facile à régler si M. Biden veut toujours plaider coupable. Et d'ailleurs, je pense qu'il est dans son intérêt de le faire.
Le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a récemment émis l'idée d'ouvrir une enquête en vue de la destitution du président Biden en raison de fautes financières présumées. Le gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, également républicain, a offert son point de vue sur ABC.
L'Amérique a d'énormes problèmes en matière de santé mentale, de crise des opioïdes, de lutte pour la sécurisation des frontières. Je préférerais que l'on se concentre sur les problèmes de santé mentale. Je préférerais que l'on se concentre sur ces questions.
Tout en faisant la promotion de ses réalisations économiques dans le Maine, le président Biden a plaisanté vendredi sur l'idée de la destitution. Il a nié à plusieurs reprises avoir parlé avec son fils des affaires de ce dernier à l'étranger.
Et c'est ici que s'achève cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouhamadou Oumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et Twitter. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique.